Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. Sweet dreams are made of the RTL. Jusqu'à 22h.
Bonjour, bonjour, bonjour.
La curiosité est un vilain défaut.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Lennox, Prince, Yves Mourouzi, toutes ces stars sont passées par les bains-douches dans les années 80, dans les années 90. Et c'était le patron des bains-douches, roi des nuits parisiennes pendant près de 20 ans, multimillionnaire. Il vit aujourd'hui à Marrakech avec quelques centaines d'euros par mois. C'est ce qu'il raconte dans son livre Hubert Boukobza, écrit avec Jean-François Kervéan. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue. Vous avez été très riche, Hubert Boukobza. Vous gagnez à l'époque...
Riche, oui, ça va, pas mal.
Vous gagnez combien par semaine, tiens? Par exemple, à la grande époque des bains-douches, ça chiffrait en francs, en centaines de milliers de francs par semaine, c'est ça?
Moi, je crois qu'il n'a jamais su, surtout. Hein.
Ouais, voilà.
200 000, 250 000 francs par semaine, c'est ce que vous racontez dans le livre?
200 000, ça fait 200 000.
250 000 francs que vous remettez c'est dans un sac en plastique, le directeur de salle, le directeur de bain, chaque semaine, chaque vendredi.
Combien en euros maintenant?
Oh bah ça fait pas mal quand même en euros.
Ça fait 30 000.
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vous vivez avec une retraite de quoi?
Ouais, non, mais je viens, bah oui, c'est un petit raccourci quand même, oui. Non, mais depuis, j'ai alimenté un peu mes caisses.
Ça va un peu mieux.
Ce qui me permet, malgré tout, de vivre... Oui, quand même, beaucoup mieux. Oui. Mmh.
Pour bien comprendre ce qu'étaient les bains-douches dans les années 80-90, faut peut-être commencer par faire la liste des stars qui y sont passées.
Je crois que le plus simple, c'est peut-être de dire ceux qui ne sont pas passés. il y a le pape. Déjà,
François Mitterrand n'est jamais passé.
Oui, c'est ça.
François Mitterrand n'a jamais mis un pied au bain.
Ouais.
Et le pape.
D'accord. Voilà. Sinon, tous les autres sont venus.
Bah, à peu près, oui.
Plusieurs fois.
Alors,
ils ont même passé la nuit.
Ouais. Robert De Niro.
Bah lui, oui, c'est un ami.
Oui, enfin, allez, dites-nous quelques noms qui font rêver. Sinon, je vais les dire à votre place. Andy Warhol, oui, Jean-Michel Basquiat, Yves Saint-Laurent.
Oui,
c'est juste mythique.
Madonna, Sean Penn, Nicholson, DiCaprio, Tom Cruise, Nicole Kidman.
Mes copains, c'était Jack Nicholson, Bob De Niro, Sean Penn, Johnny Depp, Bono. Roman Polanski, évidemment. Et c'est moi, par exemple, qui présentais Johnny Depp à Vanessa Paradis. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais...
Bah, si, ça a été une belle histoire, avec de beaux enfants, évidemment, même s'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Hubert Boukobza, vous écrivez dans votre livre coécrit avec Jean-François Kervéan que ce succès, il reposait sur une étoile à cinq branches. Sylvie, Guy, Claude, Jonathan et moi. On va peut-être refaire la liste. Alors, Sylvie, c'est Sylvie Grimbach. Ouais. Alors elle était quoi? Attachée de presse, c'est
attachée
ça?
Attachée de presse.
Pourquoi elle était importante, Jean-François Kervéan, dans l'histoire?
Parce qu'à l'époque, elle dirigeait le deuxième bureau, et le deuxième bureau, c'est une époque de designer, de mode. Paris était très très en pointe sur la mode, la nouvelle fashion, et elle s'occupait surtout de tout ce qui était design, architecte et mode. Mmh. Donc faire appel à l'époque à Sylvie, c'était avoir tous les mots d'eux. Mmh. Et au milieu des années 80, c'était essentiel cette population-là.
C'était surtout l'attachée de presse du Palace à l'époque.
Et elle avait déjà...
Avant que Fabrice Hébert décède. Mm-hmm. Et donc, elle avait déjà une connaissance un peu du milieu.
De la nuit et des nightclubs et des boîtes de nuit. Guy Cuevas, ensuite, quel était son rôle, Hubert Boukobza?
Guy Cuevas, il travaillait aussi, c'est un ancien du Palace, qui était DJ, qui était extrêmement extravagant, qui avait des tenues, c'était un Cubain, qui avait une très grande connaissance musicale, et qui représente un peu la bande des homos, fashion, tout ça. Mm-hmm. Donc lui, il avait toutes ces petites bandes de toutes ces madones décelées.
D'accord, donc deuxième branche de l'étoile, Claude Chal, Jean-François Kervéan, c'était qui?
Claude Chal,
alors Hubert Boukobza.
Allez-y Hubert, parce que vous le connaissez mieux que moi, franchement.
Ça, je connais mieux aussi. Ouais. Ouais. Je parle moins bien, mais je connais mieux.
Non, mais moi j'ai deux invités, donc je me balade de l'un à l'autre. Alors, Claude Chal, c'était qui?
Claude Chal, dans mon esprit, c'était de faire un lieu qui soit un mélange de downtown et uptown. C'est ce qui veut dire un petit peu, c'est un peu les branchés, les machins, et un peu les friqués, les bling-bling. Mm-hmm. Et Claude Chal représentait un peu plus les bling-bling, avec il venait d'une boîte des Champs-Élysées, le privé, où c'était plutôt genre les Gunter Sachs et Brigitte Bardot, vous voyez. Et l'autre côté, avec Guy Cuevas, qui représentait un peu les Kenzo, les Montana, les Mugler. Enfin, ça raccourcit, hein, mais bon.
Oui, mais tout ça, c'était bien pensé, finalement, pour faire venir ceux qui devaient être dans cette boîte.
C'est une pensée que j'ai eue intuitive, comme ça. J'ai pas fait une étude de marché, j'ai pas fait... C'est moi. Moi, j'avais envie de faire un lieu comme ça. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir. Et j'avais envie d'avoir des surprises, des rencontres un peu différentes que dans les autres lieux, parce qu'il y avait, en même temps, il y avait des soirs où il y avait des travestis, des rockers, des dealers, des stars, et après, vers minuit, une heure, arrivaient, par exemple, des princesses en robe longue qui sortaient d'opéra. Vous voyez ?
Ça donne envie d'y retourner, hein, dans les bains douches de l'époque. Alors,
non, malheureusement, il y a malheureusement plus cet esprit de la fête qu'il y avait. Puis les gens aimaient s'habiller. Les gens étaient beaucoup plus insouciants, étaient plus optimistes, je crois aussi.
Là, on est au milieu des années 80, c'est ça, quand vous reprenez le
début. Au milieu des 80 jusqu'au milieu des années 90, jusqu'à un peu la fin des années 90.
C'était quoi la devise, d'une certaine façon, Jean-François Carvin? C'est sans limite? Au bain douche, on peut dire ça.
C'est une conception du plaisir, je pense, mais ce qui est étonnant, c'est que votre entrée en matière sur le livre, c'est de lister des people et de faire allusion à l'argent. Et c'est plutôt une vision des années 80 vue des années 2015. Ouais. Enfin, 2014-2015, parce que tout était là, c'est ça qui est très drôle, c'est-à-dire qu'il y avait des montagnes de fric et de célébrités, mais c'était pas le critère déterminant, ni à l'intérieur, ni à la porte. Et c'est ça.
On venait pas parce qu'on savait qu'il y avait des stars à l'intérieur.
Mais tout était la cerise en plus sur le gâteau. L'essentiel du gâteau, c'était qui que tu sois, viens t'amuser. Voilà. Et qui que tu sois, tu vas pouvoir t'amuser. Tu vas peut-être faire un tour de piste avec une top girl, tu vas rencontrer des mecs de banlieue avec un blouson noir, tu vas écouter la meilleure des musiques, tu vas boire de la vodka, parfois trafiquée au marché noir parce que le patron s'en fout plein les poches, mais tu vas t'amuser quand même.
Ça lui a joué de mauvais tour, cette histoire, on y reviendra.
Ouais, il est allé donc en tôle entre deux palaces, et ça aussi, ça fait partie des couleurs de la vie. Et c'était précisément les couleurs de cet endroit et d'Hubert, c'est-à-dire duchesse, rocker, le 93, les grandes stars, les icônes américaines qu'on voyait nulle part à Paris.
Alors justement,
tout le monde était là, et nous aussi, parce que les mecs de 25 ans qui n'étaient personne, ou les filles, pouvaient entrer aussi un soir où elles avaient de la chance.
Et on va justement comprendre comment on devient l'ami d'un Robert De Niro ou d'un Léo DiCaprio. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Et ce soir, on plonge dans l'ambiance des bains-douches avec son ancien patron Hubert Boukobza et Jean-François Carléon, co-auteur du livre 10 000 et une nuits, publié chez Robert Laffont. On a cité quelques-unes des stars qui passaient au bain-douche comme ça, comme si de rien n'était. Certaines sont devenues très proches. Je pense que vous dites même des amis, Robert De Niro, par exemple.
Oui, absolument. Nous avons d'ailleurs fait un restaurant ensemble après à Paris, un restaurant japonais qui s'appelait Nobu rue Marbeuf. Et oui, dès qu'il venait à Paris, il m'appelait une semaine avant pour me prévenir et j'organisais les festivités.
C'était quoi les festivités avec De Niro ?
C'était chez moi, on faisait d'abord une petite fête à la maison, on invitait quelques personnages un peu sympathiques et attrayants. Tout dépendait de la personne qui était là, mon invité vedette, quoi. Et avec Robert De Niro, il aimait bien les gens, comme on dit, de couleur, c'est ça, et plutôt des jeunes filles. Et quand il m'appelait, par exemple, de New York, il me dit, Hubert, tu peux lire la page de Vogue italien 122. Il me dit, voilà, tu peux lui dire de venir.
Et donc, vous invitiez tel ou tel mannequin?
Ouais,
déjà, fallait la trouver, fallait l'identifier, la trouver. C'était déjà un gros boulot à plein temps, ça.
Il croyait que moi, j'étais le fakir, je sais pas quoi. Et ce qui est vrai, c'est que j'y arrivais quand même, plus ou moins. Parce que il est vrai que tous les propriétaires des agences de mannequins, ils étaient contents de venir. Et de venir, en plus, pour être présenté à Robert De Niro, ça leur faisait plaisir. Mais en même temps, Robert De Niro est un monsieur d'un curieux caractère. Car un jour, il vient me voir, comme ça, dans une de mes cette soirée que j'avais organisée pour lui, il m'a dit, Hubert, tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent que tu organises mais ces soirées pour moi. C'est pas bien, ça. J'ai dit, écoute, tu sais, quand 80% de la population de ces soirées-là est un peu, on peut dire, noire, les gens savent que c'est pas pour moi, parce que la plupart de mes soirées, moi, elles sont plutôt blondes.
D'accord. Donc vous teniez compte des goûts féminins de Robert De Niro. On a bien compris ça. Et aussi, il fallait surtout pas lui parler de ses films. C'est vrai, Jean-François Carvéan, oui. Ça l'ennuyait, De Niro.
Hubert, il a l'air comme ça d'un nightclubber extraverti. En fait, c'est un homme extrêmement pudique et très assez timide au fond. Une des premières histoires qu'il m'a raconté, c'est justement son compagnonnage avec De Niro, puisque lui, il a été l'ami des plus grosses icônes américaines. Hein. Il y a Nicholson, il y a Sean Penn qui lui récite Rimbaud et Shakespeare la nuit dans son bureau. Enfin,
et il raconte... Vous parlez d'Hubert. Hein,
oui, je parle d'Hubert. Ouais. Et Hubert, dans le livre, une des premières choses qu'il m'a raconté, c'est quand il a vu De Niro, il était pétrifié de timidité puisqu'il adorait De Niro, c'était un grand cinéphile. Il aimait tous les films de De Niro. Mmh. Et alors il raconte l'envers du décor dans le film, hein, c'est-à-dire que toute cette réalité d'amitié et de passion. Donc il dit à De Niro, quand on lui amène De Niro, il dit oh, « Votre film était merveilleux » et De Niro le regarde comme si c'était un tas de poussière, il en a rien à foutre, il parle de cinéma.
Comme s'il parlait de, je parlais de quelqu'un d'autre.
Il est minuit et demi, le mec il en a marre du 7e art, il est pas là pour ça.
Tout le monde lui a dit « Vous êtes merveilleux et vos films sont merveilleux », c'est ça.
Le problème c'est que tous ces relations qui viennent à Paris...
Ben voilà, le secret d'Hubert il est là.
Pour faire la promo. Donc, ce qu'ils avaient envie, c'est le soir, c'est pour le
temps. C'est que ça s'arrête.
C'est surtout pas de parler de...
Alors, Hubert se prend une énorme veste parce que De Niro le regarde pas et De Niro s'éloigne. Et quand De Niro revient à la boîte, Hubert réfléchit 2 secondes, il regarde De Niro, il cherche ce qu'il peut dire pour attraper De Niro et il lui dit « Ils sont jolis tes boutons de manchette ». Et l'amitié avec De Niro, mais c'est très intéressant parce que l'amitié avec De Niro va démarrer comme ça et la semaine d'après il va venir, il va lui parler de ses enfants, de ses résultats scolaires et on part dans la vie.
Il m'a parlé de ma veste en lin.
Voilà. Ben voilà, comme quoi c'est tout simple de devenir copain avec l'une des plus grandes stars du cinéma international. Restez avec nous, cette vie passionnante, celle d'Hubert Boukobza, l'ancien patron des Bains-Douches, on vous l'offre ce soir sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et dans la curiosité ce soir, on vous emmène au Bain-Douche, pas dans n'importe quelle boîte de nuit. C'était The Place to Be, le lieu branché du Paris des années 80, avec Hubert Boukobza. Qui était votre principal concurrent? C'était Régine, à l'époque?
C'est une plaisanterie.
Je sais pas, je savais que ça allait vous titiller un peu.
Concurrent, moi?
Vous en aviez pas, c'est ça?
Franchement... C'est dommage que vous ne sortiez pas à cette époque-là. Je suis désolé. Pourtant, votre curiosité, normalement, devrait vous obliger.
Pourquoi, quand on dit Régine, ça.
Régine, c'est ma copine.
Hein. Ah bon?
C'est grâce à elle que j'étais en prison.
D'accord. Alors, racontons cet épisode, tiens.
Vous savez, il n'y a jamais une vraie dynastie. Il n'y a jamais vraiment une saga de quelqu'un s'il n'y a pas un petit peu de trucs un peu épicés, tels que la prison. Ouais. Tout le monde adore ça. C'est toujours un peu érotico, maso.
Jean-François Carvéan, la prison, c'est lié à quoi? Vous parliez tout à l'heure des bouteilles d'alcool.
Oui, c'est lié. Alors, c'est très compliqué. Le rapport à l'argent chez Hubert et dans les années 80 en général, c'est que l'argent, il faut qu'il soit là, comme l'oxygène dans l'air, comme la cocaïne la nuit. Donc il faut beaucoup d'argent, mais c'est comme un jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de conscience de l'argent chez Hubert. Donc tout à coup, il y a eu une possibilité, via une grande marque d'alcool, de tirer beaucoup de bouteilles au black, c'est-à-dire détaxer. Ce qui permet quand même, Hubert, je parle sous votre contrôle, ça permet de faire des culbutes de 40, quoi. C'est-à-dire que la bouteille, elle vous revient à 7 euros et vous la revendez 240 euros en table, quoi. Bon, oui. Et les flics ont évidemment...
C'est une belle marge, effectivement.
Mais énorme. Donc ça a foutu en rogne la police qui s'en est aperçue et il a fini au trou. Il est allé au trou sur un trafic d'alcool.
Et pourquoi vous dites que c'est... Pourquoi vous dites que Régine a joué un rôle là-dedans?
Si vous permettez, dans ce trafic d'alcool, comme on dit, j'en étais, on a acheté comme tout le monde... Des boissons d'alcool au black, quoi, comme n'importe quel épicier,
voilà,
camembert. Et par contre, nous étions 4-5 boîtes de nuit à en acheter. Mais comme par hasard, il y en a eu un seul qui est parti en détention provisoire. C'est évidemment moi.
D'accord.
Je suis toujours le premier partout.
Et pourquoi vous dites que Régine, je suis têtu, hein, a joué un rôle
là-dedans? Alors voilà, c'est-à-dire que moi j'ai énervé beaucoup Régine parce que je vidais son endroit. Et chaque fois que les gens partaient, alors les gens qui avaient l'habitude d'aller chez elle dîner, rester le long de la soirée, à 11h30 minuit, ils se tiraient en disant oh, je suis fatigué, tout ça, arrêtez, ils venaient tous chez moi. Et après, elle disait à tout le monde, elle disait ah oui, tu vas dans la boîte des branchés, tu vas dans la boîte des drogués. Et j'ai su par la suite, par des ouïes-dire, enfin bon, c'est pas sûr, hein, mais bon, que ma déconvenue était un peu liée à ses relations proches avec M. Jacques Chirac.
Ça,
maintenant, vous savez,
c'est comme vous dites, c'est peut-être des on-dit et c'est difficile à prouver ces choses-là. Donc on va passer là-dessus parce que c'est impossible à prouver. On va donc être prudent.
Absolument.
Vous avez employé depuis le début de cet entretien plusieurs fois le mot cocaïne. Ça veut dire que c'était impossible, Jean-François Carvéan, d'être patron d'une grande boîte à cette époque sans passer par la coke.
Le palace a été plutôt, la fin du palace a été teintée par l'héroïne qui est une drogue morbide alors que la cocaïne était une drogue festive, hein, ça permet la sociabilité, ça permet à des gens timides parfois de passer pour des cadors, ça permet à des inhibés de passer pour des ténors d'opéra, ça permet d'avoir une vie, de déguiser sa vie et d'avoir un premier rôle. Sous cocaïne on se croit toujours meilleur, on se croit toujours plus brillant et c'est le drame du père. C'est-à-dire que des gens qui prennent beaucoup de cocaïne sont des gens qui au fond se détestent. Et je pense qu'un des grands mystères d'Hubert, c'est la haine de soi-même. Et c'est comme ça qu'on prend de la coke et c'est comme ça qu'on devient nightclubber, parce que sous coke et la nuit, tout est différent. Donc on peut assumer un rêve énorme et le livre raconte cette déchirure en fait. C'est la longue histoire de cette déchirure. Les 10 premières années, elles ont été festives et rêveuses et les 10 dernières années, elles ont été beaucoup plus difficiles à vivre.
Parce que Hubert Boukobza, à un moment, vous preniez de la coke la nuit et des somnifères ensuite, et c'était l'un puis l'autre en permanence.
C'est-à-dire que ça a été extrêmement dégradé. C'est-à-dire que ça a commencé très gentiment. Au début, c'était les gens qui m'en offraient, les gens qui venaient au bain. Après, au fur et à mesure, ça commençait à me plaire. Je commençais à en acheter, mais ça a duré 5 ans, 8 ans. Et j'étais vraiment addict, un peu plus au bout de 8 à 10 ans. Hein. Mais ça a mis assez longtemps. Et puis, à l'époque, j'en prenais jamais dans la journée. J'en prenais que le soir quand j'arrivais au bain. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à cette époque-là, tout le monde en prenait. Disons qu'il y avait peut-être une sur 100 qui n'en prenait pas, je sais pas. Et Jane Fonda qui n'en prenait pas.
Voilà. Ça lui a réussi vachement bien.
Très bien conservé.
Très bien conservé.
Ouais.
Mais la cocaïne, ça permet aussi de rester maigre, c'est vrai ça?
On va pas faire l'apologie de la cocaïne ici, parce que Hubert Boukobza, ça vous a fait beaucoup de mal.
Non, surtout, Hubert n'en fait pas l'apologie dans son livre. Ouais. Hein, il raconte.
Je ne fais pas l'apologie, mais je dis pas non plus du mal, mais ce qu'il ne faut pas, c'est comme tout, exagérer. Toute chose peut avoir un intérêt.
Mais vous avez perdu le contact avec la réalité au bout d'un moment, en partie à cause de la cocaïne.
C'est quand j'en ai pris trop, quoi. C'est à partir de 2002, quand le matin, pour me réveiller, il fallait que j'en prenne. C'est là que ça devenait terrible. Et je ne me rendais pas compte de ce cercle vicieux où j'étais. J'en prenais tout le temps, quoi.
Oui, et à ce moment-là, la pulsion de fête devient une pulsion.
Non, mais là, je m'amusais plus. C'était plus la fête comme avant, c'était fini. Non, mais j'étais plus vraiment au bain-douche. Hein. J'étais un peu à droite à gauche.
Vous avez failli mourir dans un incendie aussi chez vous. Peut-être aussi à cause de l'état dans lequel vous étiez.
Évidemment, ça joue. C'était un after. J'étais avec mon copain Jean-Luc Delarue. On avait fini. Et puis moi, j'avais laissé ma cigarette dans mon lit. Et le lit a commencé à se consumer.
Ça arrive à plein de gens, hein, franchement, ce pauvre.
Oui.
Ça peut vous arriver à vous aussi. Hein.
Oui, sûrement, mais peut-être que l'état dans lequel vous étiez vous
empêchait
de bien réagir, c'est ça?
Absolument.
Qu'est-ce qui s'est passé après?
Non, mais après, c'est que vous savez, c'est...
Bah, tout a flambé. Hein,
c'est comme une poudrière. Quand il y a du feu qui est dedans, ça ne s'arrête pas, quoi. Et le toit a brûlé. Le toit a brûlé. Après, quelques mois plus tard, j'avais marre d'attendre pour les assurances et tout ça. J'ai cédé. Après, je l'ai recédé à Carla Bruni, qui maintenant habite avec M. Sarkozy.
Ah, c'est drôle, ça. Jean-François Carvéan, donc la maison de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy aujourd'hui, c'était la maison d'Hubert Boukobza. Ben voilà.
Oui.
Je ne le savais pas avant de lire votre livre.
Mais il s'y plaise beaucoup maintenant. Il s'y plaise beaucoup, c'est une maison charmante.
Tous les auditeurs de La Curiosité est un vilain défaut le savent eux aussi. On va continuer de raconter votre histoire, Hubert Boukobza, et les investissements que vous avez essayé de faire, les affaires qui ne se sont pas forcément bien terminées. Et puis, pourquoi aussi vous avez décidé d'écrire ce livre et de raconter tout ça? C'est dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut. Yeah,
La curiosité avec Hubert Boukobza, le patron des bains-douches, boîte de nuit mythique des années 80-90 à Paris. Il est accompagné de Jean-François Kervéan, co-auteur du livre 10 000 et une nuits, publié chez Robert Laffont. Vous étiez le roi des nuits parisiennes. On a vu tout à l'heure que vous gagniez, Hubert Boukobza, beaucoup d'argent. Vous le dépensiez aussi rapidement que vous le gagniez. C'était quoi là?
J'en dépensais toujours un peu plus.
C'est vrai?
Ce qui est un très bon principe dans la vie.
En banque, j'étais toujours à découvert. Que je pouvais gagner 1 million, 2 millions, 10 millions. J'avais cette facilité de dépenser mon argent.
De flamber?
J'étais très doué.
Mmh. Mais à quoi? Acheter des œuvres d'art, au jeu, au poker?
Non, je jouais pas à cette époque. Avant, je jouais, après, ça m'arrivait aussi. Mais à cette époque-là, j'ai pas le temps de prendre la tête au jeu. Mmh. Et puis ma vie, c'était un jeu déjà, donc ça suffisait. Mmh. J'avais besoin d'excitation plus intense. Mmh. Et mes parents me voyaient à l'époque, il y avait encore le Concorde, je partais 2 fois par mois à New York, en Concorde. Donc quand j'arrive au Concorde, c'était toujours les mêmes hôtesses. Comment ça va, Hubert? Vous allez bien aujourd'hui? Ça va? Vous avez toujours un petit verre de vin blanc? Un petit sauterne? Oui, d'accord. Vous voyez, ma vie, c'était ça. La limo qui m'attendait devant, en bas, devant. Quand je revenais à Paris, le Concorde, c'était pratique parce qu'on arrivait la même journée, on arrivait le soir à 10h30. J'avais mon chauffeur qui m'attendait, souvent une de mes copines. Et puis, il y avait une petite ligne pour me rafraîchir de la santé. Mmh. Un petit verre de champagne et hop, on retournait au bain-douche. Et une chemise, évidemment, pour se rafraîchir.
Mmh. Et il y avait beaucoup d'argent liquide. Le fisc vous a jamais cherché des noises?
Non, mais si, il m'a cherché au moment où il y a eu cette histoire de la prison. Mmh. Là, ils m'ont bien tapé. Ils m'ont tapé, mais bon, j'ai payé ça en 10 ans. La boîte a payé, mais moi, il y avait en perso aussi, mais j'ai pas pu tout payer.
Et la cocaïne, Jean-François Kervéan, la police faisait des descentes au bain-douche, ça arrivait
ou... Oui, alors Hubert n'était pas protégé, donc il y a eu des descentes. C'était peut-être pas les descentes les plus fouillées qu'on puisse imaginer. Je pense que si les flics étaient vraiment descendus tous les 2 jours, ils auraient pu réussir à finir par faire fermer la boîte. Mais en gros, Hubert raconte une très grande descente de flics où il rallume les lumières, tout le monde est pétrifié. Il n'y a rien de pire que de rallumer la lumière dans une boîte de nuit. Tout à coup, on croyait qu'on était sur une Olympe, on s'aperçoit qu'on était dans une cave sale et plein de sueur.
Et on se trouve moche, oui.
Hubert rappelle aussi qu'à l'époque, il y avait la fumée, les odeurs. Enfin, c'était un monde. Enfin, c'est les années 80. Ils ont rallumé la lumière et ils n'ont rien trouvé, sinon un gros tas dans les toilettes, que évidemment, dont personne n'a revendiqué la propriété. Donc, ce gros tas de cocaïne qui était dans les toilettes est resté, enfin, est parti avec les flics et ils ne sont pas revenus. Voilà. Je vais dire un truc par rapport à Hubert, parce que le temps passe. Tout ce que dit Hubert est vrai et tout ce que dit Hubert est faux. C'est-à-dire que quand il vous explique l'immense jouissance de l'argent et de tout ce que ça représente comme jeu, dans le livre d'Hubert, et ce qui était passionnant, c'est pour ça que moi j'ai eu une grande passion à faire le livre avec lui, c'est qu'au fond de la fête, il y a, dans les années 80, il y a toujours l'idée du péril, du risque et du danger. C'est-à-dire qu'Hubert vous racontera toujours qu'il a joui mieux que vous, c'est très fort, c'était bien, j'ai claqué du pognon. Moi, c'est le Hubert qui m'insupporte. Et ça m'intéresse pas tellement. Et je vois pas pourquoi on achèterait un livre pour entendre un type qui raconte ça. Ce que moi, Hubert m'a raconté, c'est que c'est une époque où la fête sert aussi à se rencontrer, à créer, à avoir une grande forme de délicatesse les uns vis-à-vis des autres. C'est toute la valeur des années 80. C'est dommage que la cocaïne ait torpillé ça, et il le regrette. Et c'est une très 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 belle époque de culture, de délicatesse, de jeu et de partage. Et c'est ça aussi qu'on va trouver dans le livre, plutôt qu'une litanie de frics, de limousines et de people, qui y sont aussi, mais le travail ne s'est pas résumé à ça.
Mmh. Ça vous gêne, Hubert Boukobza, d'entendre...
Non, c'est pour ça qu'on s'entend bien, parce qu'on a deux points de vue qui tirent toujours.
Non, mais une partie de ce qu'il a dit, j'approuve complètement, qu'il est vrai que la chance que j'ai eue, alors que j'étais un mec lambda, quoi, qui aurait pu ne jamais rien voir ni connaître, j'ai pu m'approcher et être ami avec des personnages mythiques, des icônes, très intouchables, très, très impossibles à approcher. Et puis moi, voilà, j'étais un peu un zélide qui arrivait, on ne sait pas pourquoi.
Oui, c'est vrai. Et d'une chose qui est très belle pour retenir, moi je pense que d'une aventure éditoriale et littéraire, il faut essayer d'avoir une leçon de vie. La notion qu'il a, il dit « le plaisir n'est concevable qu'à l'extrême ». Bon, ce qui est c'est une position dans la vie. Hein. Mm-hmm. Le plaisir se mène jusqu'au bout. Mais alors jusqu'au bout de quoi? Qu'est-ce qui se passe au bout? Et à la fin du livre, il a expliqué au fond ce qu'il croit être sa vie, sa nature. Il dit qu'au fond du plaisir, il y a un danger. Et c'est ça, en fait, qu'on cherche. Et tant que les gens n'ont pas renoncé, enfin, lui considère qu'on est vivant, tant qu'on n'a pas renoncé au fond du plaisir, à la part de danger. Et c'est ce qui rendait toutes ces rencontres et toutes ces décennies a été, à mon avis, passionnante à cause de ça, autant que par la comédie, quoi. Il y avait de la comédie, du spectacle, mais il y avait un enjeu existentiel derrière qui faisait que les gens étaient quand même assez passionnants, quoi. Vraiment.
Hubert Boukobza, vous avez failli en mourir de ce danger à force de flirter avec ?
Oui, absolument, absolument. Il y a 4-5 ans, j'étais à Ibiza, j'étais devenu un porc complet. Je ne sortais même plus de chez moi. Je prenais de l'alcool, il y avait des jeunes filles qui venaient. Je buvais 2 litres de vodka et je me suis enfermé. J'étais un overdox, mais avec ce qu'il ne fallait pas.
C'est votre fille qui vous a sauvé ?
C'est ma grande fille, Julie, qui est venue me prendre un jour, qui m'a amené dans l'avion. Je suis arrivé à Paris. Elle m'a amené tout de suite chez un docteur. Et le docteur, elle m'a à peine vu, qu'elle m'a envoyé tout de suite
aux urgences.
Et là, j'ai eu un coma respiratoire. Et je suis resté 6 semaines.
Il en a un très bon souvenir aussi. Hein.
Les infirmières étaient vraiment charmantes.
Ça, c'est votre espièglerie. Hein. Il y a
moi, je pense quand même que, que tous les jours que j'ai aujourd'hui en plus, c'est des jours de plus.
C'est du bonus.
Parce qu'un autre mec que moi, parce que je crois que j'avais une santé vraiment assez forte, un autre mec que moi, il y a longtemps qu'il serait déjà mort. Hein. Il y en a plein qui sont morts d'ailleurs. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je suis un survivor.
Dernier mot, les bains douches, ça va devenir, je crois, un hôtel de luxe.
Absolument.
Est-ce que ça vous plaît, cette nouvelle vie, troisième vie, puisqu'il y a eu une vie avant vous aux bains douches ?
Ça ne me plaît pas, ça m'indiffère. Pour moi, c'est fini.
Plus s'appeler les bains douches
pour... Oui, mais bon, vous savez comment ils sont, les gens. Ils essaient d'utiliser les renommées des uns et des autres pour en faire un truc commercial. En même temps, ce qui est drôle, c'est qu'avant, c'était un endroit de nuit, de fête, où on s'amusait. Et là, c'est devenu un endroit où on dort.
Oui.
Bon, bah, chacun son truc. Hein.
Allez, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Hubert Boukobza. Merci, Jean-François Carveillant, votre livre.
Extrêmement charmant.
Ouais, c'était passionnant. 10 000 et une nuits, c'est publié chez Robert Laffont. Quand vous vous promenez à la campagne, prenez le temps de vous arrêter au bord du chemin, regardez de près une bouse de vache. Bah ouais, c'est le prochain thème, Jean-François Carveillant. Vous me regardez avec un drôle d'air. C'est ce que fait notre prochain invité. Vous verrez que c'est peuplé, qu'il s'y passe beaucoup, beaucoup de choses, plus ou moins avouables là aussi. Safari dans la bouse, c'est ce qu'on vous propose ce soir sur RTL.
Vous écoutez RTL.